Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, si on regarde les éléments suivants, les restaurateurs qui parlent de très bientôt, peut-être à la mi-mai, réouvrir au moins les terrasses. On voit Pfizer qui annonce donc le vaccin pour les 12 à 17 ans. On voit que les taux de vaccination vraiment augmentent partout, ouverts aux plus de 40 ans. Savez-vous quoi? Je pense qu'on va avoir un été. Je pense qu'on va avoir un vrai été. Je pense qu'on va avoir un été qui a de l'allure. Je m'imagine déjà, là, au bord de la piscine, quelque part, au Québec. Ça se peut. Quand je vois toutes ces bonnes nouvelles-là, puis quand je vois la super belle publicité du gouvernement pour encourager tout le monde à se faire vacciner, pour pouvoir justement se pitcher dans des lacs tous ensemble cet été, je pousse un grand et très joyeux. Ben voyons donc!
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous connaissez mon ami et collègue Jean-François Lisée, un homme sérieux qui écrit des livres sérieux, qui fait de la politique sérieuse. Ben, de temps en temps, il aime ça aussi parler de sujets plus légers, de culture populaire, Star Academy ou toutes sortes de sujets comme ça. Et là, quand il m'a envoyé son sujet en me disant « Sophie, je veux absolument parler de ce sujet-là », je me suis dit « Ah tiens, ça va être une analyse fine du phénomène Marie-Pierre Morin. » Bonjour Jean-François.
Bonjour Sophie.
Écoute, je dis que c'est un sujet léger, mais les allégations, par contre, entourant Marie-Pierre Morin, c'est tout sauf léger. On parle de harcèlement sexuel, d'agression, de voies de fait, de commentaires racistes. Donc, cette partie-là du dossier n'est pas léger. J'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. Quelle analyse tu fais, toi, de tout ce phénomène-là, Marie-Pierre Morin?
Bon, je pense que ça dit beaucoup de choses sur l'époque. Alors, tu sais que j'aime les choses qui nous parlent de l'époque. Et donc, j'ai fait la liste que je t'ai envoyée d'un certain nombre de biais qui sont présents là-dedans. Alors, si tu veux, on va les prendre un par un. D'abord, le biais d'origine, c'est le syndrome du surhomme. C'est dans ce cas-ci de la superwoman. Lorsque certaines personnes, heureusement pas toutes, atteignent un niveau de célébrité. Surtout quand c'est très rapide, ils ont l'impression que les règles ne s'appliquent plus à eux ou à elles. Elles sont capables de faire n'importe quoi et que probablement, puisqu'elles sont célèbres, tout le monde les aime et que personne ne va s'offusquer de comportements qui ne sont pas acceptables dans d'autres circonstances. En tout respect pour Marie-Pierre Morin, je vais faire l'exemple qui nous vient à l'esprit, c'est celui de Trump qui avait dit quand vous êtes célèbre, les femmes, vous pouvez leur prendre l'organe génital, ça les dérange pas. Alors, c'est exactement cette idée, on peut penser que pour M. Salvaille, c'est la même chose, qu'il y a une zone psychologique que des gens célèbres atteignent parfois, qui est un genre de déformation de la réalité, qui leur font penser que les règles ne s'appliquent plus à eux et peuvent tout se permettre, et je pense que Marie-Pierre Morin est entrée dans cette zone-là au grand désolement de ses victimes d'abord,
ouais.
et maintenant de sa carrière.
Mais en même temps, tu vois, ce phénomène-là que tu décris, on pourrait le faire un parallèle, parce que là, c'est dans le monde du spectacle, tu as cité Éric Salvaille, et je trouve que la comparaison est très bonne, mais ça s'applique aussi dans d'autres domaines. On n'a qu'à penser à quelqu'un comme Marcel Aubu, qui, parce qu'il était hyper puissant, hyper riche, qu'il avait beaucoup de pouvoir comme avocat, etc., pensait que c'était correct et que il ne se ferait jamais prendre. Il y a aussi cet aspect-là, le côté, ce que tu appelles le phénomène du surhomme, le syndrome du surhomme, c'est des gens qui pensent, peu importe ce que je fais, je me ferai pas pogner la main dans la boîte à biscuits, là.
Oui, mais ce qui distingue Marie-Pierre Morin de Marcel Aubu, c'est que Marie-Pierre Morin est une femme, et que est une femme jeune, et que Marcel Aubu est un homme plus âgé qui, lui, pensait que ça faisait partie de la culture normale de la masculinité puis du rapport avec les femmes que de faire toutes ces remarques et toutes ces avances non sollicitées, etc. Alors, donc, on est à la jonction de deux cultures différentes. On n'aurait pas pensé que Marie-Pierre Morin était dans cette culture sexiste-là, d'autant qu'elle était une jeune femme.
Oui, t'as tout à fait raison, et c'est aussi ce qui surprend peut-être des gens, parce que quand tu regardes le genre de comportement qui lui est reproché, allégué, écoute, quand tu rencontres une femme, tu lui mets les deux mains sur les seins, habituellement, ça, ce genre de comportement-là, c'est un comportement de vieux mononcle et pas de jeune matante.
Exact. Alors donc, premier biais, syndrome de la superwoman. Deuxième biais, qui là nous interpelle tous, c'est la séquence triomphe, chute, contrition, rédemption.
Ouais.
Ça fait partie de notre cerveau depuis la nuit des temps. Les grands récits historiques,
bibliques même, ouais. Mm-hmm.
Hein, exact. Et donc, c'est comme si on avait un sillon dans la tête qui nous dit. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Quelqu'un devient extrêmement célèbre ou riche ou puissant, on participe de ça. Ensuite, il y a une chute, et une chute qui est très grave. Là, il y a l'opprobre populaire, le procès public. Là, ensuite, il y a la phase de la contrition. Il faut que la personne montre qu'elle a compris ses torts, qu'elle avoue ses torts. Et ensuite, il y a la rédemption. Alors, on est en train de vivre cette séquence avec Marie-Pierre Morin. Et il y a même quelque chose de satisfaisant dans l'esprit populaire des gens, puis je me mets là-dedans, de voir que la séquence se prolonge. Et ce qui est intéressant dans la contrition qu'on a vue en public avec plus de 1 million de personnes dimanche, c'est évidemment le caractère public de la chose, et que tout le monde commente, est-ce que la contrition a été bien faite, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'elle aurait dû dire ceci et cela.
Et donc, est-ce que le chandail blanc qu'elle portait, est-ce que c'était juste une opération de relations publiques? Est-ce que c'était songé? Quel message essayait-elle d'envoyer avec son chandail blanc? Écoute, on a tout lu puis tout entendu, là.
Exact. Et donc, il y a un engagement social sur la qualité de la contrition. Et ça dit quelque chose, non seulement sur l'époque, mais sur... Je dirais sur l'espèce humaine, la façon dont on réagit à ça. Je ne le condamne pas, je le constate. Et là, évidemment, ce qui est intéressant dans le cas de Marie-Pierre Morin, c'est évidemment que c'est quelqu'un qui est conseiller en matière de relations publiques. Le chandail blanc plutôt que le décolleté, évidemment que ça a été songé. Maintenant, si elle avait mis un décolleté, on lui aurait dit, ben là, c'était pas le moment de mettre un décolleté, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et aussi, on voit que sur la rédemption, elle a été bien conseillée parce que si elle avait obtenu le gala artiste lors du gala, ça serait trop tôt pour la rédemption, tu comprends? Il y a des délais entre la contrition et la rédemption, et donc elle était en danger d'avoir une rédemption trop rapide. Il faut attendre que ses nouvelles productions soient vues, et l'an prochain, si elle a le gala artiste, ce sera une rédemption qui sera dans l'ordre correct des choses. Tu vois?
Oui, mais là, je veux rajouter quelque chose là-dessus parce que je trouve que c'est très important. C'est que donc, la séquence des événements, c'est dimanche. Donc, samedi, il y a cet article assez ravageur qui est publié dans la presse. En fait, ravageur, parce que c'est juste une couche de plus, mais ça ressemble exactement à ce qui lui avait été reproché par Safia Nolin ou ce qui avait été relaté dans le texte, lui, très ravageur du Devoir au mois de juillet l'année dernière. Bref, le journal La Presse publie ça le samedi. Dimanche, elle est à Tout le monde en parle. Et dimanche, elle annonce « Je retire ma nomination au gala artiste ». Sauf que moi, j'ai vérifié, et voici la façon dont ça se passe. C'est que la raison pour laquelle elle est en nomination au gala artiste, c'est qu'il y a eu un sondage auprès de 14 000 personnes où les gens nomment spontanément les gens qu'ils veulent voir dans chacune des catégories. Donc, son nom s'est retrouvé là en nomination. Puis, il y a eu un deuxième sondage où les gens, on leur a dit, ben voici les 5 femmes qui sont en nomination dans la catégorie meilleure comédienne pour une série. Pour qui vous votez? Donc, bien avant dimanche soir, le nom de quelqu'un ou de quelqu'une était déjà dans une enveloppe chez Léger en vue du gala de dimanche. Donc, de deux choses l'une. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de deux choses l'une, soit c'était son nom à elle qui était dans l'enveloppe, en quel cas ils ont dû déchirer l'enveloppe et remettre le nom de la personne qui est arrivée en deuxième dans les pourcentages, soit son nom n'était pas là, puis de toute façon, ça changera rien parce que le vote a déjà eu lieu. Ce que je veux dire, c'est que ce qui aurait été spectaculaire, c'est si elle avait décidé de retirer sa nomination avant que les gens se trouvent à voter pour elle. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, c'est possible. Mais ça aurait été la meilleure solution pour elle dans la séquence, c'est qu'on ne le sache pas. Et donc, les gens peuvent penser qu'elle aurait gagné si elle n'avait pas décidé de le retirer. Et on ne le saura jamais. Alors, pour elle, c'est mieux. Comme tu dis, elle aurait pu retirer plus tôt, au moment de la controverse. Ça aurait été mieux. Mais en tout cas, elle le fait là. Et l'autre chose aussi sur le fait que, bon, je pense qu'il y avait une part de sincérité qui était visible, il y avait une part de préparation, c'est clair, il y avait une part d'avis juridique aussi. Pourquoi est-ce qu'elle n'a accepté de prendre la responsabilité d'aucune des allégations spécifiques? C'est parce que son avocate lui a dit, ben là, si tu te déclares coupable de ça, ça veut dire que tu pourrais être poursuivi pour voie de fait. Et tu pourrais être condamné à une petite amende, là, je veux dire, c'est pas aggravé, etc., mais il y aurait quand même une conséquence juridique à l'admission, tu sais. Ça aurait été plus courageux de dire, je sais que si je l'admets, il pourrait y avoir des plaintes à la police, mais je m'en fous, je veux blanchir mon affaire, je veux aller au bout des conséquences, j'assumerai les conséquences. Ça aurait été plus audacieux. Mais en tout cas, elle l'a calibré comme ça, elle a suivi les conseils de son avocat. Mais ensuite, puisqu'elle dit qu'elle veut faire des excuses individuelles, si elle va s'excuser individuellement à la femme dont elle a pris les seins et qu'elle enregistre la conversation, elle pourra aller porter plainte. Ça n'arrivera probablement pas, hein, tu vois. Mais c'est quand même un genre d'excès de prévention juridique qui fait partie, parce que cette personne est célèbre, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle est conseillée, parce que bon, qui ne serait pas accessible à un plombier ou une infirmière qui aurait commis les mêmes actes.
T'as tout à fait raison.
Mais qui n'aurait pas le problème de sa réputation publique étant en jeu aussi. Alors, il y a les deux côtés de la balance. Si t'es un inconnu qui fait un geste comme celui-là, puis une plainte qui est déposée et que tu paies ta dette, c'est une chose, mais au moins tu te promènes dans la rue puis tout le monde te pointe pas du doigt, ce qui est le cas d'une célébrité. Ça, c'est l'autre plateau de la balance, où là, ben la célébrité, si elle devient une paria, ben c'est beaucoup plus lourd dans l'ensemble de sa vie. C'est la même chose pour la victime, mais c'est plus lourd dans l'ensemble de sa vie. D'où la nécessité, si la rédemption est possible, de bien réussir sa contrition et sa rédemption. Sinon, c'est très difficile à vivre, surtout si t'es jeune.
Ben, tout à fait. Mais je veux revenir sur quelque chose que t'as dit. C'est qu'en fait aussi, et elle l'a soulevé dans son entrevue dimanche à Tout le monde en parle. Quand les gens lui reprochent en disant, ben, c'est beaucoup trop tôt que tu recommences à travailler. Mais c'est parce que ce que les gens doivent garder en tête, c'est oui, elle fait un tournage maintenant de la faille, mais ça va pas être diffusé avant plusieurs mois. Oui, elle tourne le film Arlette sur un scénario de Marie Vien là, avec de Marie-Lou Wolfe, mais c'est, on le sait, le cinéma, ça peut-être sortir juste à la fin de 2022. Donc, c'est pas comme si elle allait être dans la face du public tous les soirs à partir de la semaine prochaine, là. C'est vraiment, on parle de vraiment le long terme. Donc, quand les gens disent, ben, c'est trop tôt pour son retour, ben, le retour, il est pas vraiment maintenant. Il est vraiment plus tard.
Sophie, qui sont les gens? Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à voter pour elle tout de suite et qui n'auraient pas voulu qu'elle parte de toute façon. Il y a des gens qui pensent que c'est trop tôt. Alors, comment juger? Ben, je trouve que le critère, c'est, puisqu'on est dans un marché commercial, les producteurs qui doivent vendre leurs produits, s'ils considèrent que finalement, voilà, le marché payant. Est prêt à regarder Madame Morin lorsqu'elle reviendra à l'écran dans 6 mois, c'est le marché qui nous le dit. T'sais, ces gens-là sont pas des idiots, ils prennent un risque calculé et ils sont mieux placés probablement que n'importe qui d'autre pour dire ça. Maintenant, il y a un autre biais, je sais que le temps file, mais que je vais aborder,
30 secondes.
C'est celui de la beauté et de l'amabilité. Ça fait une grande différence. Je veux dire, le fait qu'elle soit belle et qu'elle semble aimable, alors elle ne l'a pas été dans un certain nombre de comportements, ça modifie, qu'on le veuille ou non, le comportement et l'acceptabilité. Si on avait eu je vais nommer Hubert Lenoir. OK. Hubert Lenoir est quelqu'un qui est célèbre, mais qui est tête à claque. OK. Il est tête à claque.
Xavier Dolan.
C'est pas beau. ça passerait moins bien.
Ça a tout à fait raison.
Ça fait partie aussi de la relation psychologique, la beauté et l'amabilité. Peu importe le degré de culpabilité, c'est un atout qui est inégalement réparti et c'est une des grandes injustices de la vie.
Oui, et si vous en êtes pas convaincu, allez ouvrir n'importe quel livre de Michel Houellebecq où il parle justement de ça, cette grande injustice de la beauté. Il en parle en des termes assez éloquents. Jean-François, c'est toujours intéressant de te parler, surtout quand tu te penches comme ça sur des événements. Est-ce que ça dit sur notre époque? Jean-François Lisée, donc ancien chef du Parti québécois, qui est commentateur chez nous 2 fois par semaine. Donc, je te dis à vendredi. Merci beaucoup.
Merci, à vendredi.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Auquel on a le plus hâte de pouvoir manger dans une salle à manger de restaurant. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, au moins les terrasses. S'il vous plaît, les terrasses. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs propriétaires de grandes chaînes de restauration qui essayaient de sensibiliser le gouvernement à l'importance, à l'urgence d'ouvrir leurs terrasses d'ici le mois de mai. Ben, il y a vraiment une lueur d'espoir parce que semble-t-il qu'il y a un groupe de restaurateurs qui va pouvoir avoir des discussions très prochainement avec les autorités sanitaires. On parle de tout ça, on dépatouille ce dossier-là avec Jean Bédard. Il est président de SportScene, c'est le groupe qui gère la cage à brasserie sportive. Monsieur Bédard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez hâte, vous, d'aller manger à une terrasse, Monsieur Bédard?
Oui, absolument. Là, notre bureau est juste à côté d'un de nos restaurants. Là, puis quand il s'est mis à faire beau au mois d'avril, puis de voir que cette belle terrasse-là, vide, alors que les gens venaient chercher des plats pour apporter, pour aller manger, soit dans leur véhicule ou au travail ou dans un parc, là, on pense que le beau temps s'en vient, donc on pense que c'est une bonne façon de réouvrir notre industrie là, qui a été probablement une des plus touchées là, par toute cette crise sanitaire-là.
Oui, puis en plus, on le sait quand même, la santé publique nous le rappelle, les risques de transmission en extérieur sont vraiment infimes comparés aux risques de transmission à l'intérieur. Donc, une terrasse, si on peut manger au parc, moi personnellement, je comprends pas pourquoi on peut pas manger à une terrasse. Vous venez de le dire, les gens, ils venaient dans vos restaurants, prenaient des plats pour emporter, puis allaient s'installer sur une table de pique-nique. Ben, c'est quoi la différence entre ça puis une terrasse de restaurant?
Surtout qu'en plus, nous, ben, c'est quand même encadré en plus. Là. On a quand même toujours, on l'a vécu l'été passé avec les mesures sanitaires. Les gens, avant de rentrer chez nous, ben, ils se lavent les mains, les tables sont distancées. Donc, et là, ben, ce qui risque d'arriver, là, quand les belles journées vont arriver au mois de mai, les gens vont vouloir rester dehors, dans le parc, évidemment, ça dépend d'où tu es, mais il y a de plus en plus d'activités qui vont continuer. Donc, oui, on s'est dit que c'est une bonne façon, je pense, de reprendre les affaires. Puis pour notre industrie aussi, de le faire de façon graduelle, il faut commencer à embaucher des gens, il faut les former pour être prêts pour la belle saison. Parce que moi, j'ai quand même confiance que cet été, on devrait avoir un été. Puis tout le monde m'a dit « j'ai tellement hâte d'aller manger au restaurant ». Nous, ça nous donnera en même temps l'occasion de nous préparer. Fait que je pense que notre message, la bonne nouvelle, c'est que le message a été entendu. On a des discussions prévues dans les prochains jours pour commencer à parler de ça, mais évidemment aussi de tout le reste aussi, parce que ça, c'est juste une étape vers un retour aux affaires un petit peu plus normal pour l'industrie, là.
Bon, ça c'est très important parce que c'est ma collègue Elisa Cloutier du Journal de Québec qui a sorti cette information-là hier, comme quoi, bon, ce que vous réclamiez, c'est-à-dire qu'on accélère le processus, ben manifestement, vous avez entendu, vous et les autres groupes de restaurateurs qui faisiez de la pression auprès du gouvernement. Donc, c'est arrivé comment? Vous avez eu un appel de la santé publique? Ou c'est quoi exactement? Comment ça s'est passé, développement-là?
Je pense que l'important aussi, c'est de... Oui, on est des chaînes, mais on aussi, là, on travaille beaucoup avec l'Association Restauration Québec. Là. Je pense qu'on on essaie, là, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que l'année passée, ça avait bien été la réouverture des restaurants, ça avait été bien fait. Il y avait eu un groupe de travail qui avait travaillé avec la santé publique, le ministère de l'Agriculture qui nous chapeaute comme industrie, puis également SST. Et là, ben, ce qu'ils ont décidé de faire, puis c'est un peu ça qu'on réclamait, c'est qu'ils vont réactiver ce groupe-là qui avait travaillé, participé, contribué aux discussions et très rapidement. Donc, c'est ça qu'on a eu. On a eu un appel, en fait, je dirais, du responsable de notre dossier là, au MAPAC qui a dit que ils remettent sur pied ce comité-là là, pour justement parler des terrasses, parce que l'année passée, on n'avait pas parlé de façon spécifique des terrasses. Puis nous, on pense qu'il faut en parler parce que peut-être les mesures, parce que justement, on nous dit que les risques de propagation sont beaucoup plus faibles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc peut-être qu'on peut revoir la façon d'opérer les terrasses pour l'été. Puis en même temps, ben, commencer à penser à un retour aussi de notre industrie. Fait que c'est une bonne nouvelle parce qu'on est une industrie qui est quand même. C'est compliqué quand même réouvrir un restaurant. Là, il y a l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement a été bien affectée également par toute cette crise-là. La formation, moi j'ai des employés que ça fait 6 mois là, qui n'ont pas travaillé. Juste de revenir, ils ne se souviennent pas du menu, ils ne se souviennent pas des codes informatiques. Donc, c'est toute une tâche qui attend tous les restaurateurs. C'est pour ça qu'on se dit, ben là, c'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'ils réalisent que c'est le temps d'y penser. Puis souhaitons que ça se fasse comme il faut pour tout le monde.
Oui, parce qu'il y a deux questions quand on parle des employés. Il y a évidemment ceux qui étaient déjà avec vous et qui ont besoin juste de se faire rafraîchir un peu la mémoire, puis de se dérouiller un peu parce qu'ils se sont peut-être rouillés pendant leur mois d'inactivité. Mais il y a aussi l'idée que vous allez peut-être vouloir embaucher plus de monde. Puis il y a des étudiants qui, eux, se disent « Bon, ben moi, si j'ai pas de nouvelles pour cet été de la part de la cage ou de la part de d'autres restaurants, je vais aller faire autre chose. »
Oui, c'est ça. Puis on s'attend quand même, tu sais, on est convaincu que les consommateurs vont être au rendez-vous. Là, cet été, là, tout le monde que je croise, j'ai tellement hâte de retourner au restaurant, j'ai tellement hâte.
C'est sûr.
Et c'est quand même un peu inquiétant pour nous parce que justement, l'été, bon, on s'est achalandé, on a souvent nos capacités sont plus grandes parce que les terrasses sont là en plus. Puis on a besoin aussi de cette main-d'œuvre-là d'été. Puis les jeunes, ben le cégep, là, ça se finit dans 2 semaines. L'université c'est terminé ou se termine cette semaine. Fait que ces gens-là sont en train de regarder ces jeunes-là ou qu'est-ce que je vais faire de mon été. Fait que là, déjà, là, qu'on ait parlé de restauration pendant 2, 3, 4 jours, alors que ça faisait 5, 6 semaines que c'était silence radio, ben, ça, ça réencourage nos équipes. Ça probablement, ça fait penser aux jeunes que oui, j'aimerais ça retourner passer un été travailler à la cage dans un autre restaurant. C'est ça qu'on avait besoin. Puis en tout cas, on est bien contents là, parce que je pense que le message a été bien reçu. Puis enfin, on va pouvoir travailler à reprendre le travail puis se préparer pour la belle saison qui s'en vient.
Donc, vous nous dites deux choses. D'abord, le simple fait que ce soit revenu dans l'actualité, le simple fait qu'on se soit remis à en parler, ça oui. a peut-être juste planté une petite graine dans la tête de gens qui disaient « Ah oh, ben non, je vais faire autre chose cet été ». Donc, juste le fait que ce soit dans les nouvelles, là, que vous ayez pris position oui. publiquement, ça rappelle des choses. Et aussi, le fait que vous ayez fait cette sortie publique, c'est ça qui a fait bouger le gouvernement et ce qui fait en sorte que, donc, selon ce que vous nous dites, on remet sur pied, en fait, ce comité qui était là l'été dernier. Comment vous le voyez? Parce que moi, je veux bien, mais je suis toujours un peu inquiète, Monsieur Bédard, quand j'entends des gens me dire, ben là, on a eu un appel du gouvernement qui nous dit que bientôt, il y aura des discussions pour éventuellement... Ouais. Tu sais, ça m'a l'air long comme processus. Vous êtes en affaires, là, je le sens. Faut que ça passe, faut que ça opère, là.
Oui.
Puis là, je suis en train de claquer des doigts devant mon micro pour que tout le monde comprenne l'image. Mais au gouvernement, ça claque pas beaucoup des doigts, hein?
Ben, écoutez, honnêtement, par contre, je vais vous dire que j'ai été beaucoup impliqué là depuis le début de cette crise-là, puis ça l'opère quand même assez vite.
Si on oui?
regarde, moi, je regarde le gouvernement, c'est, je veux dire, maintenant, on a réclamé, exemple, des frais moindres pour les frais de livraison des Uber Eats de ce monde et tout ça. Je dois vous dire que, tu sais, de passer un projet de loi comme ça, assez rapidement, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que par la normale. Fait que oui, le sentiment d'urgence est là. Je suis pas inquiet, honnêtement, là, je vous le dis, puis rassurez-vous que quand ils nous disent qu'on va entreprendre les démarches rapidement, je suis. Puis si c'est pas le cas, on va vous le dire aussi, on vous le dira. Mais non, ça va nous faire plaisir parce que nous aussi, on est impatients. Mais non, j'ai très confiance qu'on risque d'avoir des bonnes discussions à court terme, puis qu'on va faire avancer le dossier comme il faut. Parce que pour encore une fois, c'est une période qui est extrêmement difficile pour tout le monde. Nous autres, on a compris dans la troisième vague qu'on venait de retomber pas dans le top de la liste des priorités du gouvernement, puis c'est bien normal, il y a des écoles, il y a tout ça. Mais là, on pense que là, ça a l'air à se stabiliser, cette crise-là, puis on parle de retour, notre timing a été bon. Puis on a eu l'écoute, puis en tout cas, moi, je suis bien confiant là, qu'on va, dans les prochaines semaines, on va avancer pas mal, là, puis on va être capable de faire quelque chose qui va faire du sens, là, puis qu'on va être capable de revenir aux affaires, en tout cas. Sinon, on va vous rappeler, inquiétez-vous pas. On va
sortir. Puis on va faire, ça va nous faire super plaisir de mettre de la pression sur le gouvernement, parce que je pense qu'on a tous très hâte de pouvoir se rencontrer au restaurant. Puis vous l'avez souligné, c'est que, en fait, à la rigueur, c'est peut-être même plus sécuritaire d'avoir des gens qui mangent ensemble à une terrasse de restaurant où les tables sont espacées, où on force les gens à se laver les mains, où il y a, tu sais, un contrôle, que, tout le monde qui s'en va s'entasser sur une table de pique-nique dans un parc ou dans une résidence privée aussi, hein. On en revient toujours
aussi,
à ça.
Là, parce que faut pas se le cacher. Puis l'autre phénomène aussi qu'on sait qui existe en ce moment, c'est tous les restaurants clandestins, là, les gens qui réouvrent par en arrière, puis tout ça, pas nécessairement avec des permis. Ça existe, ça aussi. Là, on l'a vu en France.
Des restaurants clandestins. Oui, on l'a vu en France, mais je ne savais pas qu'il y en avait au Québec.
Ben, écoutez, moi, je n'ai entendu parler. Là, je sais pas si c'est des légendes urbaines, mais il est possible aussi que ça existe ici aussi au Québec. Donc, là, ça va moins favoriser ça. Les gens vont être capables de venir à l'extérieur parce que tout le monde est un peu à bout. Et je pense qu'on va être capable avec une ouverture organisée, avec des terrasses, tout ça, de justement donner ce service-là. Puis en même temps, ça va nous permettre de repartir la machine puis bien se préparer pour l'été, là.
Oui. Vous nous avez parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Donc, évidemment, vous, c'est votre métier, c'est du vocabulaire que vous maîtrisez, mais pour quelqu'un qui est comme monsieur et madame tout le monde, ça signifie quoi? Pourquoi? Parce que nous, on se dit, bon, ben là, il y a juste à ouvrir la porte, il commande une coupe d'ailes de poulet, puis bingo, monsieur Bédard, il est capable de rouvrir les cages. C'est pas comme ça que ça marche.
Ah, du tout, puis c'est drôle que vous parliez de ça, parce que justement, ce midi, j'ai eu des appels depuis qu'on a fait cette sortie-là. Exemple, mon fournisseur de fruits et légumes, lui, il a besoin de visibilité. D'après toi, Jean, quand est-ce que tu penses qu'on va ouvrir? Parce qu'il faut qu'il commence à monter ses inventaires. Je vais vous donner un autre exemple. La bière en fût, c'est un processus de production de 3 semaines. Puis quand on a réouvert dans la région de Québec au mois de mars, quand le Québec, exemple, est tombé en zone orange, ben les brasseurs n'avaient pas d'inventaire du tout. Fait qu'on a réouvert, mais on n'avait pas ces produits-là parce qu'eux autres, ils ont besoin de 2-3 semaines pour savoir que les activités vont reprendre. Fait qu'il faut commander. Avant, moi, mon distributeur alimentaire faisait tous mes restaurants 3 fois par semaine. Là, évidemment, il est arrêté. Il fait une livraison par semaine. Fait qu'il faut pas que tu trompes dans ta commande parce que si tu manques d'un produit, il va falloir que tu attendes la semaine suivante. Fait que tout ce qu'il y a en arrière de nous, l'industrie, également, ça a un impact. L'autre élément aussi qui est drôle, et l'autre élément aussi qu'il faut pas négliger, je peux vous dire, j'ai eu lundi matin des appels de hôtellerie, des gens qui ont des spas, qui ont des restaurants, puis qui nous encouragent à continuer nos démarches, parce qu'eux autres aussi, comme on dit, un hôtel, pas de restaurant, c'est plus ordinaire comme expérience. Il y a des spas qui ont des petites salles à manger également.
C'est vrai.
Je pense au cinéma qui ont besoin aussi là, d'avoir leur comptoir d'ouvert. Fait qu'on a aussi beaucoup d'impact sur d'autres activités ou d'autres secteurs d'activité. Fait que c'est pour ça que les consommateurs ont hâte, mais il y a également aussi d'autres secteurs d'activité qui ont de la restauration puis qui ont hâte qu'on soit en mesure d'opérer à tout le moins à l'extérieur pour commencer, puis évidemment à l'intérieur après.
Oui. Il y a des restaurants qui sont déjà prononcés publiquement en disant, écoutez, nous, juste ouvrir la terrasse, ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas rentable. Ça coûte trop cher parce qu'il faut engager du personnel et on peut mettre tellement peu de tables parce que les tables doivent être espacées. C'est pas payant d'ouvrir la terrasse. Donc, soit on ouvre tout au complet, soit on n'ouvre pas. Qu'est-ce que vous, c'est pas votre situation, là, c'est pas votre cas à vous.
Ben, en fait, nous, c'est pas dans notre modèle d'affaires, les terrasses, mais pour nous, c'est un départ. En fait, notre logique, et puis je pense que ça a bien fonctionné, c'est que les terrasses, c'est un bon départ pour parler et réouvrir les discussions, parce que je pense que tout le monde est d'accord, autant les consommateurs, mais vous comprendrez que nous, on ouvre les terrasses, mais quelques semaines plus tard, on ouvre les salles à manger. Fait que je pense que même moi, il y a de mes restaurants que ça vaudra peut-être pas la peine. Si on nous autorise les terrasses, ça veut pas dire que je vais tout ouvrir mes restaurants tout de suite non plus. Il y en a certains dans des secteurs que ça vaut plus la peine, mais on va savoir en même temps, ce qu'on veut savoir avec ce groupe-là, c'est oui, les terrasses, mais est-ce que c'est 2 semaines plus tard, les salles à manger? Mais on va être capable de donner de la visibilité aux restaurateurs. Fait qu'un restaurateur qui n'a pas de terrasse, évidemment, il ne pourra peut-être pas ouvrir s'il décide d'ouvrir les terrasses, mais il va savoir, par contre, que peut-être 2-3 semaines plus tard, les salles à manger vont réouvrir. Et lui aussi va avoir cette visibilité-là que personne n'avait depuis un mois. On était tous dans le néant. Fait qu'évidemment que ce comité-là, ce ne sera pas juste l'ouverture des terrasses, son mandat, mais c'est vraiment plus l'ouverture de la restauration, incluant les terrasses.
Donc, vous le voyez comme en séquence, ce comité-là, M. Bédard, du gouvernement, avec le MAPAC?
J'ai eu un pré-appel ce matin, je dirais.
Ah, d'accord.
Je pense... on a déjà eu des appels.
Ça roule!
La prochaine, ça roule. Non, je vous dis, ça roule quand même. Fait que je m'attends la semaine prochaine à ce qu'on avance quand même pas mal. Parce que l'avantage qu'on a cette fois-ci, c'est qu'on connaît tous assez bien les normes sanitaires. Vous comprenez que l'année passée, là... On arrivait
on naviguait dans le...
là, puis on savait pas. Idée, c'était quoi, des masques, c'est quoi cette affaire-là, mettre des masques. Là, je pense qu'on a, tout le monde, on sait c'est quoi le minimum. Fait que ça va accélérer beaucoup, je dirais, ce côté de discussion-là, parce que je pense pas qu'on va changer. Puis d'ailleurs, on a déjà des restaurants d'ouverts, nous, en Abitibi.
Dans les régions où ils sont pas
ouverts. On a l'expérience un peu ce qui fonctionne pas. Puis donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, je pense que ça peut quand même, ça sera pas, je pense pas ça, on a tant de longues discussions à avoir que ça. C'est ça la beauté, c'est que le gros du travail a été fait. Je pense qu'il y a un petit peu de mise à jour puis de réflexion à faire pour ce qui s'en vient. Mais moi, je suis confiant qu'on devrait être en mesure d'avancer pas mal les prochaines semaines.
Excellent. Et dites-moi, l'idée d'avoir une sorte de passeport de vaccination qui ferait en sorte que ne pourraient rentrer dans les restaurants que les gens qui ont eu au moins la première dose, est-ce que c'est quelque chose à la cage où vous êtes pour ou vous êtes contre cette idée-là?
Ben, en fait, on n'a pas d'opinion. Je vais vous dire honnêtement, le débat vient de commencer. Sérieusement, j'ai aucune opinion. Je veux dire, En ce moment, on se concentre vraiment à essayer d'ouvrir. Puis ça, je vais laisser ça plus aux experts là à débattre sur c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire et tout ça. Moi, je peux comprendre qu'il y a en ce moment, tout le monde amène un paquet d'idées, là, puis je pense que c'est ça qu'on a besoin aussi d'idées. Puis le débat de la vaccination, on le voit, là, c'est vraiment ce qu'on parle beaucoup en ce moment. Maintenant, j'ai vu hier que je pense que c'est la Saskatchewan qui a expliqué son plan de déconfinement. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça, mais eux autres,
non,
en fait,
je vais
plan
aller
de déconfinement
voir. Oui, allez-y.
Et va être en fonction du taux de vaccination. Fait qu'imaginez-vous, eux autres, ils ont décidé qu'exemple, on va ouvrir les restaurants quand 60% de la population, je donne des exemples. Fait qu'autrement dit, ils ont comme mis la responsabilité aux gens de se faire vacciner, puis plus que la population va être vaccinée, plus que vous allez être confiné. C'est pas nécessairement bête pour,
pas fou.
Comme stratégie.
Ouais, ouais, j'aime pour, ça. Oui, ben les Albertains, oui, ils ont des bonnes idées des fois. OK. Super,
c'est ça,
oui.
Je pense que c'est en Saskatchewan, c'est ça qui ont fait ça.
Ah, Saskatchewan, pardon.
On va suivre ça, ce côté-là, au niveau de la vaccination puis de l'impact que ça va avoir sur nos opérations. Mais moi, en ce moment, on n'a pas... moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus, là, pour l'instant.
Mais de toute façon, la question sera peut-être même caduque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y en avoir, en effet, on vient là d'ouvrir pour les 40 ans et plus, on nous annonce le Pfizer pour les 12-17 ans, donc très rapidement, d'ici les prochaines semaines, il va y avoir quand même un gros morceau de la population qui va être vacciné. Donc, est-ce que vraiment l'idée même d'un passeport sera nécessaire? Peut-être pas. Jean Bédard, ça a été vraiment...
Pas. Peut-être pour voyager, oui, mais pas... Je serais plus surpris ici à l'interne, mais pour voyager ou des événements très, très spéciaux. Mais en tout cas, je pense pas qu'on va être obligé d'aller là.
Peut-être pas besoin d'un passeport pour aller manger des ailes à la cage, mais peut-être besoin d'un passeport pour aller voir le Canadien jouer...
au Centre Bell, peut-être.
Au Centre Bell. Monsieur Bédard, oui, où on mange, en effet, des petites ailes aussi, des fois. Monsieur Bédard, ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite des discussions avec ce comité, donc, qui est, en fait, remise sur pied d'un comité qui était sur place, qui était sur pied l'année dernière. Donc, MAPAC, CNESST, des représentants des restaurants, de la santé publique, pour en arriver à une réouverture partielle ou complète des restaurants au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Monsieur Bédard.
Merci, bonne fin de journée. Au revoir.
Jean Bédard, qui est président de SportScene, donc le groupe qui gère, entre autres, la cage Brasserie Sportive.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle-là, bien cachée dans le plus récent budget fédéral, cette information complètement hallucinante. Le géant Netflix exempté de la nouvelle taxe sur les services numériques. Oui, je sais, c'est difficile à imaginer qu'un géant comme ça, une compagnie qui engrange des millions, des centaines de millions de profits, qui n'aura pas à payer cette nouvelle taxe. On va en parler avec Martin Champoux, il est député de Drummond pour le Bloc québécois. Monsieur Champoux, bonjour.
Bonjour.
J'en reviens pas, Monsieur Champoux. Comment on en est arrivé là qu'un géant comme Netflix n'aura pas à payer la taxe Netflix?
Il y a quand même quelque chose de paradoxal hein, dans
un peu,
cette taxe dont on parle depuis des années et qui porte le nom de l'entreprise à laquelle dont on considère qu'elle devrait payer cette taxe, on la soustrait à la taxe finalement. Alors il y a quelque chose d'assez ironique là-dedans, effectivement.
Alors, c'est dans le budget fédéral. Comment, au Bloc québécois, comment on compte s'opposer à cette mesure-là? Quels arguments on utilise ou on va utiliser pour dire que ça n'a pas de sens?
Ben d'abord, on ramenons les choses un peu dans leur contexte. C'est une mesure qui est annoncée dans le budget de Mme Freeland, mais qui est une mesure qui n'est pas en place avant janvier 2022. Donc, ce n'est pas une mesure qui est applicable maintenant. Ça reste donc encore aujourd'hui à l'étape d'un engagement, ce qu'on pourrait aussi éventuellement appeler une promesse électorale. Mais il n'y a rien de concret pour les il n'y a rien de concret pour les entreprises du numérique présentement. Ceci étant dit, on n'a rien contre le fait, au contraire, on l'a même réclamé, que les entreprises en ligne qui profitent des revenus d'abonnement des Québécois, des Canadiens, contribuent à l'écosystème culturel. Le problème, c'est qu'avec la taxe sur les services numériques, ce ne sont justement pas ces entreprises-là qui sont touchées. Alors, encore une fois, le gouvernement fait la moitié du chemin. Il ne fait pas le chemin qu'il devrait faire. En fait, il ne fait pas de chemin du tout parce que pour l'instant, ce ne sont encore que des paroles.
Oui. Alors, c'est que, en fait, il y a comme une distinction qu'on fait. Et donc, cette taxe ne s'applique pas sur les abonnements. Or, Netflix, ça fonctionne comment? Ça fonctionne par abonnement. Donc, on a l'impression un peu que... puis, on se rappelle au moment où Mélanie Joly était au patrimoine et c'était elle qui se débrouillait avec cette patate chaude-là. Et elle n'arrêtait pas de répéter « Non, Justin Trudeau s'est engagé, on veut pas taxer encore plus les citoyens canadiens, puis tout ça. » Mais on se retrouve dans une situation où il y a comme deux poids, deux mesures. Il y a les abonnements, il n'y a pas de taxes, mais tous les autres trucs, il y a de la taxe. On a l'impression qu'on a le gouvernement libéral a essayé, en fait, de couper les cheveux en quatre.
Ben, il y a plusieurs points sur lesquels vous me faites réagir. La première chose, c'est d'appeler ça une patate chaude. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils considèrent que c'est une patate chaude que d'assujettir des entreprises qui profitent très grassement des revenus qu'ils vont faire en territoire canadien. Je ne vois pas pourquoi c'est une patate chaude de les assujettir aux mêmes règles fiscales que les autres entreprises qui opèrent sur le territoire. Alors, en soi, de considérer ça une patate chaude, c'est certainement manquer de courage face à ces entreprises-là qui arrivent de l'étranger. La deuxième chose, et vous dites, on ne veut pas ajouter un fardeau aux consommateurs, mais les consommateurs paient déjà les abonnements. Les consommateurs paient des taxes sur leurs abonnements. Les consommateurs paient des impôts également à la fin de l'année. Alors, les consommateurs, eux autres, sont en train de faire leur part, là, du début à la fin. On demande simplement à ces entreprises-là de faire leur part, elles aussi, ce que le gouvernement libéral ne semble pas très enclin à faire présentement.
Oui. On pourrait, si on était caricatural ou si on était caricaturiste, vous et moi, imaginer les bureaux, hein, le gros bureau avec l'Assemblée générale des plus grands patrons de Netflix et de voir ces gens-là, mais morts de rire. Ils doivent être morts de rire, ces gens-là. Là. Il y aurait une série Netflix à faire sur... Les grands patrons d'une entreprise multimilliardaire qui se fait dérouler le tapis rouge par un gouvernement d'un grand pays, là, ils sont morts de rire.
Je vous dirais que je ne serais pas du tout étonné de savoir que les lobbyistes des géants du numérique vont recevoir leur boni à la fin de leur mandat. D'après moi, ils ont bien fait leur travail.
Oui. Je sais que ça a été vraiment un dossier très difficile pour Mélanie Joly parce qu'on avait l'impression quand elle en parlait qu'elle-même ne savait pas trop de quoi elle parlait. On se rappelle tous de ce moment où elle était à Tout le monde en parle et il y avait Gérald Filion de Radio-Canada et Mélanie Joly faisait des affirmations qui étaient constamment contredites par un journaliste économique de Radio-Canada. Est-ce qu'on peut penser que Chrystia Freeland connaît mieux ou moins bien ou aussi bien ses dossiers que Mélanie Joly? Comment on explique que cette décision-là a été prise par Mme Freeland qui, quand même, a l'air de mieux maîtriser ses dossiers?
Je vais quand même me retenir un peu parce que le partisan en moi aurait envie de faire tout plein de déclarations, mais je ne veux pas présumer des connaissances de Mme Freeland. Je serais cependant très étonné qu'elle puisse maîtriser autant de sujets qui ont chacun un niveau de complexité remarquable pour un premier budget qu'elle a livré et qui comprend près de 860 pages. Alors, ce serait impensable qu'elle maîtrise à la perfection, sur le bout des doigts, tant d'enjeux complexes. Ceci étant dit, je ne doute pas non plus qu'elle est entourée de gens qui devraient normalement maîtriser parfaitement ces dossiers-là et qu'une telle décision n'est pas venue certainement de la réflexion seule de Mme Freeland. Il y a quelqu'un qui a dit « Hey, ça, on va faire ça comme ça, allons-y comme ça. » Et bon, ben, écoute donc, c'est comme ça que ça a sorti. Encore une fois, on peut pas pointer la personne qui a pris la décision ou qui a décidé de l'orientation, mais ce serait peut-être le fun d'échanger avec cette personne-là pour comprendre le raisonnement derrière cette décision-là, d'exempter des géants du numérique de ce qui nous apparaît tout à fait logique et normal et légitime quand on opère, qu'on engrange des milliards de revenus au Canada.
Oui, alors soyons plus précis. Donc, Netflix a fait des profits, hein? Pas un chiffre d'affaires, des profits de 2,8 milliards l'année dernière. Donc, leur revenu était de 25. Donc, ils ont fait une bonne marge de profit. Et là-dessus, il y en a 11 milliards aux États-Unis et au Canada. Et on le sait, 2020 a été une excellente année pour Netflix parce que, bon, on l'a tous fait, hein? Confiné, t'es chez toi, tu peux pas sortir, qu'est-ce que tu fais? Bon. Tu peux regarder des dessins animés à Télé-Québec, mais tu peux aussi regarder Netflix ou regarder d'excellentes émissions à TVA, Radio-Canada. Bon, enfin bref, l'offre... Mais on le sait qu'en confinement, ça a beaucoup augmenté. Donc, on pourrait croire que, justement, puisque ces géants-là... et là-dessus, je dis Netflix, mais tous les autres, hein... Puisque ces géants-là ont connu une année record en 2020, ça aurait pu être justement l'occasion de dire, regardez, vous, la pandémie a créé beaucoup d'incertitudes, beaucoup de compagnies qui ont fait faillite. Vous, ça a été le contraire. Vous avez engrangé des surplus. Ça aurait pu être l'occasion justement de dire, ben, on va vous faire payer une sorte de taxe pandémie.
Ne fût-ce que de simplement faire preuve d'un souci d'équité dans un marché qui est concurrentiel et dans un marché qui, en plus, a un impact sur nos radiodiffuseurs à nous. On est en train de réviser la loi sur la radiodiffusion avec le projet de loi C10, là, dans un autre ordre d'idée.
Oui.
Alors, on essaie d'installer un système de radiodiffusion au Canada qui soit équitable avec l'arrivée des joueurs numériques. Juste d'avoir le concept d'équité en tête, il va de soi que ces géants-là doivent être imposés, doivent prélever les taxes et contribuer au système duquel ils profitent. Alors, je vois même pas pourquoi on aurait à justifier, en plus, de leur dire hey, « vous avez fait beaucoup d'argent cette année, ça vous tenterait pas de contribuer un petit peu plus? » Mais non, commençons d'abord par les faire contribuer de manière équitable. C'est ce qu'on n'a même pas le courage de faire avec ce gouvernement-là.
Ouais.
Et Netflix a déjà dit, et je veux dire, on utilise beaucoup Netflix dans cette discussion-là, puis c'est tout à fait correct, parce qu'on parle de la taxe Netflix. Mais Netflix a déjà dit, nous, la réglementation que vous allez mettre en vigueur, on va la respecter. Alors, ils s'opposent pas, du moins, pas ouvertement, là, ils s'opposent pas à ce qu'ils aient à assumer les charges fiscales qui sont tout à fait normales pour des entreprises qui opèrent au Canada. Alors, il y a un manque de courage ou il y a quelqu'un qui trouve que c'est pas nécessaire. Je sais pas d'où vient ce raisonnement-là, mais c'est clairement un raisonnement qui est difficile à justifier, difficile à expliquer.
Parlons-en de C10, puisque vous avez soulevé la question. Je ne sais pas si vous avez vu cette lettre de Monique Simard et Pierre Trudel publiée dans Le Devoir hier, parce que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à justement ce projet de loi C10, à savoir est-ce que ça va restreindre ou pas la liberté d'expression. C'est quoi la position du Bloc là-dessus?
Ben, je suis très content que vous posiez la question parce que, comme vous savez, je siège au comité du patrimoine, j'en suis le vice-président, et je suis au cœur de ces travaux-là depuis le début. Alors, à mon avis, et j'appuie tout à fait à ce que Mme Simard et M. Trudel ont énoncé dans leur lettre, il peut y avoir peut-être dans ce que soulèvent les conservateurs dans cette question d'atteinte à la liberté d'expression, il peut-être y avoir dans les textes de loi, des manières d'interpréter qui pourraient laisser croire qu'éventuellement, un gouvernement ou le CRTC pourrait avoir un mot à dire sur la liberté d'expression, sur le contenu que les gens partagent. Or, c'est infiniment improbable dans les faits. C'est vraiment une balloune qui s'est gonflée sur je dirais, un peu de populisme, peut-être un peu de sensationnalisme, à partir d'une corde sensible, peut-être un peu plus sensible même au Canada anglais qu'elle ne l'est au Québec, parce qu'au Québec, on ne sent pas cette
ben écoutez, il n'y a eu quasiment aucun texte là-dessus avant, bon, évidemment, ce texte de Mme Simard et M. Trudel, mais écoutez, c'est vraiment, là, c'est flagrant. Du côté anglais, énormément de discussions là-dessus. Du côté francophone, vraiment silence radio. Donc, c'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus. Donc, vous nous rassurer en nous disant que les possibilités que cette loi-là restreigne de quelque façon que ce soit la liberté d'expression, puis on sait que c'est quelque chose évidemment qui est au cœur de toute démocratie, que ce risque-là est plus que minime, M. Champoux.
Non seulement je vous rassure là-dessus, mais je vous dis que dans les articles à venir, dans les amendements à venir, dans les travaux du comité sur l'étude du projet de loi C10, il y a d'autres dispositions pour renforcer cette protection-là de la liberté d'expression. Ben, pas tant de la liberté d'expression, mais de la liberté des utilisateurs de médias sociaux à partager leur contenu. Il y a d'autres dispositions qui s'en viennent. Mais je vais en plus vous dire que jamais, au grand jamais, le Bloc québécois ne voterait en faveur d'un projet de loi, quel qu'il soit, où il y aurait un risque, si minime soit-il, d'atteinte à la liberté d'expression. C'est une valeur fondamentale pour nous. C'est une valeur que nous allons défendre jusqu'au bout.
Je serais curieux de savoir, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, parce que c'était hier ou avant-hier, c'était la journée Star Wars, et c'était le 4 mai, c'est pas compliqué,
the 4th,
oui, c'est ça, et donc il y avait le chef des conservateurs, Aaron O'Toole, qui a fait une petite vidéo où il se promène dans la rue avec un personnage de Star Wars, et là, l'image est coupée, et là, ça dit, je peux pas continuer à vous dire ce que je voulais vous dire à cause de C10.
Exact. Mais je pense qu'on a saisi un os et on ne le lâche pas.
On le ronge. Ouais.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'exagération là-dedans. Il y a beaucoup. J'hésite à peine à utiliser le terme désinformation. Il y a quand même des avis de gens qui prétendent qu'il y a peut-être matière à s'inquiéter. En ce sens-là, le comité doit quand même rassurer les gens. On doit quand même faire en sorte que les gens...
Parfait. Mais c'est ce qu'on vient de faire.
La population générale soit très rassurée.
D'accord.
Oui, et nous allons continuer de le faire, c'est certain.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça a été très intéressant comme discussion. Votre série préférée, vous, sur Netflix, c'est quoi?
Ah, j'en ai eu plusieurs sur Netflix, mais j'en ai pas de récentes. Je cherche en fait des suggestions.
Bon, ben,
mais je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé The Crown. J'ai beaucoup aimé.
Bon, ben voilà. Alors, un séparatiste qui aime quand même des séries sur la monarchie, j'avoue que ça me plaît bien. Mais on est tous bourrés de contradictions.
Ça reste des symboles quand même.
Oui, tout à fait.
Pour nous, mais ça reste des symboles.
Puis étais-tu cute, Diana, quand même. Monsieur Champoux, Martin Champoux, député de Drummond pour le Bloc québécois. Merci beaucoup pour cette discussion. Eh bien, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, la réalisation, et William Boivin à la recherche. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à demain.
Cube Radio.